Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous accueillir pour le premier épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Ceux qui repoussent leurs limites et se lancent des défis extraordinaires. Ces sportifs pas toujours médiatisés, mais qui ont de formidables histoires à vous raconter. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur les clés de la réussite. Que vous soyez sportif ou non, j'espère que vous en tirerez un maximum d'inspiration et de bons conseils pour être une meilleure version de vous-même au quotidien. Ce podcast a changé ma vie et j'espère réellement qu'il changera la vôtre aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, je m'appelle Barthélémy Fent et je suis votre hôte sur le podcast. Sachez qu'un exploit se fait toujours avec un grand public. Alors si vous souhaitez que le podcast entre dans la légende, mettez-lui une note sur votre application. Et parlez-en à vos amis sportifs. Qui sait, cela réveillera peut-être leur âme de champion. Et sachez que si vous laissez un commentaire, je les lis tous et ils m'apportent une énorme dose de motivation. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous dire que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Je l'utilise pour partager ce que l'audio ne permet pas de montrer, c'est-à-dire les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me suggérer les invités que vous souhaiteriez écouter. Passons à l'échauffement et à notre premier invité. Il s'appelle Arthur Guérin-Boëri. Vous ne le connaissez peut-être pas, pourtant, il est 5 fois champion du monde. Il a 3 records du monde à son actif dans un sport sous-médiatisé en pleine expansion, l'apnée. Oui, l'apnée. Donc dans cet épisode, on va discuter souffle, record, respiration et méditation. Il a commencé l'apnée en 2011 et Arthur a connu une progression fulgurante puisqu'en 2013, soit 2 ans plus tard, il est sacré champion du monde pour la première fois. Mais il ne s'arrête pas là. Par la suite, il enchaîne les records, dont même celui le plus fou de la plus longue distance parcourue en apnée sous la glace. Dans cet épisode, il nous explique les différentes pratiques au sein de l'apnée, il nous raconte son parcours et vous donne ses conseils si vous comptez vous y mettre. Pour ma part, je me suis mis à l'apnée récemment et je vous dirai si ses conseils ont porté leurs fruits. J'ai passé un excellent moment avec Arthur.
Sa sérénité, son calme, sa gentillesse m'ont réellement impressionné et inspiré. Sans vous mentir, je suis sorti de cette interview plein d'énergie, comme si Arthur m'avait transmis toute sa confiance en lui. Donc je le remercie vraiment pour ça. Allez, je ne perds pas plus de temps et je laisse tout de suite place à mon invité du jour, Arthur Guérin-Boëri. Bonne écoute. Salut Arthur.
Salut Barthélémy.
Merci beaucoup de me recevoir chez toi, dans ton appartement. C'est un cadre un petit peu intimiste. Je suis hyper enthousiaste de faire cette interview aujourd'hui, car tu pratiques un sport qui est très atypique, qui est l'apnée dynamique. On va bien revenir dessus. Et je cherchais du coup une question un peu sympa pour commencer ce podcast. Et finalement, en faisant mes recherches, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait pour se dire un matin, allez, je vais tenter l'apnée.
Alors en gros, c'est pas un truc qui est venu du jour au lendemain. C'est un sport que je... C'est une activité que je connaissais depuis tout gamin. De par aussi mes origines, parce que mes deux familles, maternelles et paternelles, sont originaires de la région niçoise. Du côté de ma mère à Nice même, et du côté de mon père un peu dans l'arrière-pays. Et donc j'allais vraiment en vacances souvent dans la région, et aussi beaucoup en Corse, où j'avais pas mal d'attaches. Et donc j'ai été vraiment au contact de l'élément marin assez régulièrement, assez tôt. Et c'est vrai que j'avais vraiment une relation assez... c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup, quoi. Alors après, j'ai évidemment été très marqué par le Grand Bleu, que j'ai vu beaucoup plus tard, à l'âge de 10-12 ans, pour la première fois. Et c'est vrai que c'est un film qui m'a plu énormément. D'une part, j'adore le Besson de ces années-là, hein, jusqu'au Cinquième Élément.
Bien sûr.
Après, c'est devenu nul. Mais à cette époque-là, c'était génial. Et du coup, donc déjà, il y a un film qui me plaît bien d'une manière générale.
Qu'est-ce qui t'a plu dans le film, concrètement ?
Qu'est-ce qui m'a plu ? C'est la mise en scène, le rythme, la musique, la théâtralité du jeu des acteurs, l'histoire... et puis c'est un film aussi, c'est ça qui est très marrant, c'est que ça fait assez écho à pas mal de choses de ma vie personnelle, notamment les endroits dans lesquels elle s'est tournée, ce personnage aussi, Jean Reno, tout ça est très... je ne vais pas détailler ma vie là tout de suite, mais il y a beaucoup de choses qui font écho à ma vie perso. Et c'est vraiment un film dans lequel je m'identifiais beaucoup en fait à ce... à ce personnage, à cette ambiance, quelque chose qui me parlait. Et cet état d'esprit a trotté comme ça dans ma tête toute mon adolescence. Et en fait, après mes études parisiennes, j'ai fait une école d'ingénieur du son à Paris, je me suis remis au sport sérieusement. Mmh. Et en cherchant un club de natation, en fait, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des clubs d'apnée? J'ai regardé sur Google club d'apnée Paris, je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait partout, quoi, que c'était un sport en plein boom, que c'était devenu un sport tendance, ce que je disais, c'est-à-dire vraiment que c'était plus un sport réservé à une élite de chasseurs sous-marins très aguerris, tu vois, qui veut maintenir un niveau machin, ou même de plongeurs bouteilles qui pratiquent l'apnée. Aujourd'hui on a vraiment tout un chacun qui vient pratiquer ce sport, des plongeurs, des pas plongeurs, des fumeurs, des non-fumeurs, des sportifs, pas sportifs, hommes, femmes, tout âge. Vraiment, c'est assez open pour ce qui est de l'apnée loisir. En tout cas, tout le monde peut vraiment pratiquer. Ça, c'est important de le noter. Et tout le monde peut se faire du bien. C'est ça aussi qui est important avec ce sport, c'est que ça devient un sport tendance et surtout une discipline bien-être. Tu vois.
Ouais.
Aujourd'hui, les gens sont très en quête de pratiques bien-être. Et donc aujourd'hui, on a plein de gens qui viennent et qui ont essayé le tai chi, qui ont essayé le yoga, qui ont essayé la méditation, je sais pas quoi, et qui viennent pour essayer quelque chose de nouveau, quoi, en quête de bien-être, quelque chose pour vaincre le
stress. On est très loin du Grand Bleu finalement.
Oui, de toute façon on est très loin du Grand Bleu, parce que Grand Bleu ça relate une histoire qui s'est déroulée il y a presque 40 ans.
Ouais.
Donc effectivement on en est bien loin. Et donc aujourd'hui on a de tout comme ça, même notamment dans les grandes villes, tu vois, comme Paris. Et d'ailleurs, les gens qui viennent chercher ce genre de choses, ils trouvent leur compte, en fait. Et parce que l'apnée, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un sport. On a la natation, le yoga, tu vois, la méditation, le tout. On a tout pour le prix d'un, quoi. Tu vois.
Bien sûr.
Et donc, donc en fait, moi, ce jour-là, si tu veux, je me suis rendu compte qu'il y avait des clubs partout.
Okay.
Je les ai appelés les uns après les autres. Ça n'a pas été facile parce que tous les clubs étaient déjà saturés de demandes à l'époque. C'était en 2011. Okay. Donc on avait déjà, on faisait déjà face à une explosion au niveau des clubs. C'est-à-dire, il y avait on ne sait plus quoi faire, des demandes d'adhésion, il y a des listes d'attente longues comme le bras. Et le premier club dans lequel il restait une petite place, j'y suis allé. C'était Apnée Passion, qui est tout à côté de chez moi, là, à Montreuil. Et c'est c'est le plus grand club de France, je pense d'ailleurs, d'apnée. C'est un club 100% apnée dans lequel on est une bonne centaine de licenciés au moins. Et j'ai fait un baptême ce jour-là. Donc on m'a accueilli, j'ai essayé ce sport pour la première fois. Et là, évidemment, je me suis inscrit tout de suite. Ça m'a énormément plu. Hein. Ça correspondait exactement à ce à quoi je m'attendais depuis tellement longtemps, en fait. Okay.
C'est marrant.
Là, j'ai commencé comme ça, voilà.
C'est marrant de laisser ça maturer, d'ailleurs, pendant plusieurs années et de se dire un jour, je me lance, je me tente. L'histoire est belle, quoi.
Ouais, mais tu vois, je pensais être le seul abruti à avoir envie de faire ce sport. Et en fait, non, c'est devenu... un sport qui intéresse énormément de monde aujourd'hui.
Ouais. Mais il n'y a pas de sport d'abruti. Hein.
Je plaisante.
Ouais, bien sûr. Mais quand tu regardes avec beaucoup de recul, beaucoup d'exploits de sportifs, tu peux te dire faut être un petit peu accroché pour faire pour faire ça, quoi. En fait, finalement, l'être humain aime ça, je pense. Donc il n'y a pas de.
Oui, quand on a la passion, après tout peut être intéressant, je veux dire.
Ouais.
Ce qui est intéressant aussi avec l'apnée, en tout cas, si tu veux, c'est qu'il y a c'est un sport qui apporte énormément en termes d'équilibre, tu vois. Je parle de grandes villes, mais c'est vrai que c'est un sport qui se pratique partout en France, mais même dans les campagnes, je veux dire, j'ai trouvé des bleds paumés où il y avait des clubs d'apnée. Mais c'est vrai que dans les grandes villes, c'est un moyen, effectivement, de prendre un moment pour soi, tu vois, de s'échapper un petit peu de ce système, de cette machine énorme, par exemple, qui est Paris, tu vois, avec le bruit, la pollution, l'agressivité, tu vois, le stress, les réseaux sociaux, les écrans, etc. Et au-delà d'une pratique sportive, c'est vraiment un moyen de s'évader de tout ça, quoi. C'est-à-dire que quand on est sous l'eau, en apesanteur, dans le silence, au contact avec l'élément, et le tout en bloquant sa ventilation, ce qui est quand même très symbolique.
Ouais.
C'est vraiment un moyen de se couper totalement du monde. Hein.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et au-delà des bénéfices qu'on va trouver sur le dépassement, la gymnastique qui impose le dépassement de soi, dans l'envie de respirer, etc., rien que ces facteurs circonstanciels, déjà, impactent énormément.
Rien que la préparation, en fait, finalement, de la discipline.
Rien que le fait de se retrouver dans le silence, sous l'eau, en apesanteur, tu vois, je veux dire, déjà, c'est pas, tu vois, quand t'arrives et que t'as une heure de périph, t'es content, quoi, tu vois.
Ouais.
donc, c'est, sans même parler du reste, c'est-à-dire du dépassement de soi qu'on peut retrouver dans ce sport, qui a énormément de bénéfices aussi et de conséquences sur la confiance en soi, le recul qu'on a par rapport aux défis du quotidien, etc. Comme dans toutes les disciplines extrêmes d'ailleurs. Hein.
Ouais.
Sans même parler de ça, juste en se focalisant sur les facteurs circonstanciels de la pratique de ce sport, il y a déjà un impact énorme, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant.
Ok, et du coup, moi tu l'as pas dit, mais tu t'es inscrit au club en 2011. T'as été en 2013, t'es une première fois champion de France, t'es repéré. Et dans quelques mois plus tard, toujours en 2013, tu deviens champion du monde. Qu'est-ce qui se passe pendant ces deux années pour que tu aies une progression aussi fulgurante ?
Alors, j'ai fait une première année d'apnée découverte, d'apnée loisir.
Ouais.
Ce que pratique d'ailleurs 90% des licenciés, je ne sais pas combien, mais une énorme majorité en fait.
Bien sûr. Et c'est là-dessus qu'on peut déjà prendre beaucoup de plaisir, j'imagine.
Exactement. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on a le plus de pratiquants. Et ça, c'est vraiment une pratique ouverte à tous. On n'a pas besoin d'être compétiteur. La plupart des gens ne font pas de compétition en apnée, restent relativement dans leur zone de confort, ne vont pas trop loin dans l'envie de respirer, voire pas du tout, et sont là uniquement pour se faire plaisir. Et donc là, c'est un peu ce que j'ai fait pendant un an, où j'ai découvert cette activité. Et à la fin de cette première saison, on m'a repéré quand même. Il y a certaines personnes dans mon club qui m'ont repéré et qui m'ont proposé d'intégrer la ligne compétition du club. On a toujours dans les clubs un peu sérieux d'apnée, on a toujours une ligne compétition où il y a des, Des fous furieux qui s'entraînent pour faire de la compétition. Et là, j'ai dit oui, évidemment. Il y avait une nouvelle porte qui s'ouvrait pour moi, et donc je me suis glissé dedans tout de suite. Et voilà, j'ai accepté et j'ai commencé la compétition comme ça. C'était ma deuxième saison d'apnée. Donc, et là, j'ai rencontré mon coach en plus, Guillaume Lescure, qui m'a énormément appris, qui m'a entraîné. Et j'ai commencé à faire des compétitions tout au long de la saison. Et de compétition en compétition, comme ça, je progressais assez vite. Et voilà ce qui m'a permis d'aller au championnat de France. J'ai fini vice-champion de France, je crois, cette année-là, à la brasse.
Okay.
Sans palme, en apnée dynamique à la brasse. J'ai été repéré par le staff, par la capitaine de l'équipe de France à l'époque, qui était Olivier Fricker, par les sélectionneurs de l'équipe de France, Arnaud Ponche et Christian Vogler, et par le DTN de l'époque, dont je me souviens plus le nom. Et ils m'ont proposé d'aller au mondial d'apnée qui avait lieu 2 mois plus tard à Kazan en Russie en 2013. Et là, effectivement, je me suis entraîné comme un fou du coup pendant 2 mois,
ouais,
pour augmenter mon niveau. Et je suis devenu champion du monde pour la première fois. Voilà, personne ne me connaissait, c'était assez marrant.
Et juste pour faire un petit point avant de rentrer sur le détail et la préparation, il y a plusieurs disciplines en apnée dynamique. Donc, dis-moi si j'en oublie. Pour moi, il y a le avec palme. Donc, c'est un monopalme que tu mets sur les pieds. Et toi, tu vas avoir les bras au-dessus de la tête très allongés. Et tu vas faire un peu le mouvement d'un dauphin. Ensuite, tu as sans palme. Du coup, tu fais de la brasse. Mmh. Et ensuite, tu as de l'apnée en profondeur. Toi, tu fais de l'apnée verticale. Donc, tu nages à la verticale. Mmh. Tu as de l'apnée en profondeur. Dans le grand bleu, il me semble qu'ils se font traîner par un câble. Mmh. Je crois que c'est interdit maintenant de faire ça. Je sais.
Plus ou moins, ouais.
Plus ou moins, ouais. Mmh. Il y a d'autres disciplines à part ça ? Parce que toi, du coup, deux que tu maîtrises, c'est les deux premières.
Donc
c'est
grosse discipline que tu n'as pas mentionné. Il y a l'apnée statique, effectivement.
Ouais, ok.
Où on ne bouge pas et c'est juste une question de temps qui passe. Ça se fait plutôt en bassin aussi. Hein. Alors, ouais. Ce qu'il faut distinguer, c'est surtout l'apnée outdoor et l'apnée indoor. Donc,
okay.
L'outdoor, c'est surtout la profondeur hein, en mer. Où là, on va descendre à la palme ou à la brasse, pareil, ou même en se tirant sur le câble aussi, avec les mains.
Okay.
Donc ça, c'est les trois disciplines principales. Et effectivement, en profondeur, en mer, on ne pratique plus ce qu'on appelle l'apnée no limit, en tout cas pas en compétition.
Voilà, exactement.
On a eu des accidents qui étaient liés beaucoup à des pas de matériel, parce qu'on est dépendant du matériel quand on descend de cette manière-là. Et donc, on ne fait plus beaucoup, on ne tente plus de records en tout cas, plus trop de records de cette manière. Il y a quelques mecs qui le font, mais c'est très marginal. Et voilà, c'est assez risqué parce qu'on est dépendant du matériel justement.
D'accord.
S'il y a un pépin matériel, on a beau avoir une bonne apnée. Alors que si on descend à la palme ou à la brasse, on descend là où nos muscles peuvent nous emmener et nous ramener.
Ouais.
Tu vois, donc c'est radicalement différent. Donc effectivement, on ne pratique plus trop l'apnée no limit. Qui nous permettait d'atteindre les plus grandes profondeurs aussi d'ailleurs. Hein. Il y a un record aujourd'hui, je crois, validé en tout cas à 214 mètres, me semble-t-il.
Pour monter aussi.
C'était très très profond. Et voilà, quand si tu veux, à la palme, le record aujourd'hui est à 130 mètres, moins 130
D'accord.
mètres. Donc tu vois, il y a quand même un énorme gap.
Bien sûr, ouais.
Et le record à la brasse, je crois, est à 102 mètres, voilà,
okay.
Pour te donner un ordre d'idée. Et du reste, on a l'apnée indoor où là on retrouve les mêmes disciplines avec et sans palme, pareil, donc à l'horizontale, c'est de la distance, hein, et où on a aussi l'apnée statique. Après, il y a des disciplines un peu plus marginales dont on parle moins. Il y a des disciplines d'endurance, il y a des disciplines de vitesse, mais qui sont assez marginales, donc on n'en parle pas trop en général. Mais voilà, grosso merdo, voilà à peu près de quoi il s'agit. Et ce sont des univers radicalement différents.
Entre l'indoor et l'outdoor.
Entre l'outdoor et l'indoor, c'est-à-dire que, tu vois, comment dirais-je, souvent bien des gens, que ce soit même dans l'apnée, hein, des gens qui apprécient l'apnée, ou même des apnéistes parfois, tu vois, parlent de l'apnée en profondeur, machin, etc., et considèrent l'apnée piscine un peu comme le rebut de l'apnée, tu vois. L'apnée du pauvre, tu vois, un peu le...
Okay, okay.
Voilà, en fait, ce que n'ont pas compris ces gens-là, c'est que ce sont deux sports différents.
Ouais.
C'est comme si tu parlais de water polo et de natation. Tu
Bien
vois,
sûr.
C'est deux trucs radicalement différents.
Tout à fait.
Et donc, ce qu'il faut que ces gens comprennent, en fait, c'est pas que c'est de l'apnée moins bien, c'est que c'est un autre sport.
Ouais.
Tu vois C'est un autre sport qui a ses contraintes, ses facilités par rapport à la profondeur. Et la profondeur, pareil, a ses contraintes et ses facilités par rapport à l'apnée indoor, à l'apnée dynamique, je veux dire, à l'horizontale, en bassin. Et d'ailleurs, sur ce point, par exemple, les vrais guerriers de l'envie de respirer, ce sont les apnéistes piscine à l'horizontale.
D'accord.
Tu vois. Et en fait, en profondeur, on a vachement moins envie de respirer. Alors, ils sont soumis à d'autres difficultés qui sont, par exemple, la gestion de la prise de risque, que nous, on n'a pas, par exemple, tu vois. Ou même l'adaptation à la compression, par exemple, l'égalisation des oreilles, l'égalisation des oreilles, la compensation, etc. Mais nous, voilà, nous, les apnéistes piscine, nous, c'est. Voilà, après, il y en a qui font de tout, il y en a qui font de la mer et de la piscine aussi. Hein.
Ouais, bien sûr.
Mais moi, je fais de la mer aussi, par exemple, même si je n'ai pas le niveau que j'ai en piscine. Mais en tout cas, nous autres apnéistes piscine, on est vraiment les guerriers de l'envie de respirer, par contre.
Okay.
C'est-à-dire qu'on a envie de respirer très tôt en général, et ça dure très longtemps, et c'est très, 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 très intense. Donc, tu vois, voilà, j'aimerais remettre un peu les choses à leur place par rapport à ça.
Okay.
Et d'ailleurs, ça, tous les apnéistes mères le savent. Hein.
Bien sûr.
Alors, personne ne le dit, mais parce que ça nuirait un peu à l'image. Enfin, j'en connais certains qui me le disent d'ailleurs en privé. Mais les vrais guerriers de l'envie de respirer, c'est les apnéistes piscine. D'ailleurs, il y a pas mal d'apnéistes mères qui ne vont jamais en piscine, et ils savent très très bien pourquoi. C'est que c'est beaucoup plus dur à ce niveau-là.
Ok.
Tu vois ce que je veux
D'accord,
dire
ouais.
Il y en a qui font les deux, qui sont très bons dans les deux. Voilà, je ne vais pas citer de nom tout de suite, mais voilà, on a un Français qui est très bon, par exemple, qui s'appelle Morgan Bourkis, qui excelle dans les deux, par exemple. Mais voilà, ces apnéistes-là, ceux qui ont essayé les deux univers, en tout cas, savent très bien de quoi je parle.
Okay.
Et ceux qui disent le contraire sont soit des menteurs, soit des idiots.
D'accord, ok.
comme dirait l'autre. Et donc, en gros, l'apnée en piscine n'est pas du tout le rebut de l'apnée, c'est un sport différent.
Ouais. Voilà,
c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et voilà, en revanche, l'apnée profonde. Il y a vraiment une capacité à rester dans le relâchement malgré la prise de risque. Il y a énormément de techniques à intégrer, notamment en termes de nage aussi, tu vois, de compensation des oreilles. Il y a une dominante souplesse aussi thoracique qui est extrêmement importante. Et rester dans le relâchement et la concentration malgré la prise de risque, parce que quand on descend à 130 mètres, on a 130 mètres de masse d'eau au-dessus de la tête. Donc, il y a quand même une prise de risque réelle, tu vois, pour l'intégrité vitale de l'athlète. Et donc, ce sont d'autres difficultés qu'il y a à gérer, tu vois, que nous, on n'a pas à gérer.
D'accord.
Mais voilà, je tenais quand même à insister sur cette mise au point qui me paraît importante.
Bah, merci. Ouais, merci pour la précision technique, parce que c'est vrai que parfois, tu sais, on parle d'un sport et puis en fait, il y a plein de disciplines à l'intérieur d'un sport.
Ouais.
Ça peut être le cas pour plein de choses. Je pense là, directement, je pense au biathlon où tu as le départ en mass start et puis tu as le départ en poursuite. Et puis finalement, c'est pas du tout pareil parce qu'il y en a qui sont très très bons en poursuite parce qu'ils sont justement, ils sont tout seuls et du coup, bah, c'est une course avec tout seul. Et puis d'autres qui vont être très bons en masse parce qu'ils vont adorer courir à côté des compétiteurs, ils vont adorer mettre des coups de coude, ils vont mettre de l'intox. Mmh. Et du coup, bah, c'est effectivement pas pareil. Et du coup, si on revient un petit peu à ton cheminement et à cette préparation un peu des championnats du monde que tu fais, c'est sur de la brasse, c'est ça, les premiers?
Oui, les premiers en 2013, c'était de la brasse.
Ouais, c'est de la brasse.
Ah, ouais.
Tu connais personne, tu te dis, tu t'entraînes comme un fou pendant 2 mois. Ça ressemble à quoi une journée de quelqu'un qui part au championnat du monde comme ça? Enfin, qu'est-ce que tu fais de tes journées? C'est quoi tes entraînements concrètement?
Sur les entraînements avant les mondiaux, à l'époque, c'était vraiment. Ça devait être 4 ou 5 séances d'apnée par semaine.
D'accord.
2 à 3 préparations physiques spécifiques. Et voilà, sur chaque séance d'apnée. C'était très 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 spécifique à la longue distance parce qu'on était proche d'une séance, d'une échéance.
D'accord.
Donc c'était du spécifique.
Ça ressemble à quoi une séance d'apnée un petit peu en deux mots pour quelqu'un puisse
une séance d'apnée en compliqué. Piscine ça dépend de la saison si on est proche des compétitions ou pas.
D'accord.
Mais grosso modo la séance type un peu tu vois que font la plupart des gens, c'est de faire des séries en début de séance, par exemple, c'est-à-dire des des distances relativement courtes avec des temps de récupération assez courts. Okay. Ensuite, au fur et à mesure de la séance, de passer sur des distances un peu plus longues avec plus de récup. Très schématiquement, c'est la séance type que font la plupart des gens, on va dire. Après, quand on commence à s'entraîner un peu plus sérieusement, on a des schémas totalement différents, voire inverses à celui-là.
D'accord, ouais, j'imagine. Ouais.
Mais voilà, grosso modo, beaucoup de gens s'entraînent comme ça, en tout cas.
Ok.
Voilà, après, il y a plein d'exercices et de techniques d'entraînement différentes. On peut travailler sur la vitesse de nage, on peut travailler technique,
ouais.
On peut travailler lactique. On peut travailler.
Parce que toi, il y a quand même cette dimension-là que je trouve assez, assez marrante, c'est que l'apnée, effectivement, on pourrait se dire c'est une course contre le temps, mais toi, en fait, non, tu te bats contre une distance. Ouais, tu pourrais nager 5 minutes en apnée, si tu nages beaucoup plus vite et que tu fais plus de distance, c'est plus intéressant pour toi. Donc il faut que tu nages vite quand même.
En fait, il ne faut pas nager trop vite parce que nager trop vite
tu t'épuises.
Va griller beaucoup plus d'oxygène plus vite. Donc en fait, il faut réussir à trouver un bon compromis entre vitesse de nage et temps passé sous l'eau.
Ouais.
Tu vois, et il ne faut pas nager trop vite. Après, certains apnées sont plus rapides que d'autres. Ça dépend les tolérances en fait au travail à l'hypoxie. Mais grosso modo, en général, les apnées qui vont très très loin sont pas très très rapides. Hein.
Ouais.
On est plutôt dans l'économie. On essaie de trouver un bon compromis, d'avoir une technique relativement bonne, en tout cas qui nous convient, pour réussir à avancer pas trop lentement en grillant pas trop d'oxygène.
Ouais.
C'est vraiment ça le but, essayer de trouver un compromis entre tout ça.
D'ailleurs, en parlant de ça, je te coupe, mais j'encourage tout le monde à aller voir tes vidéos où je crois que c'est ton troisième record en Italie, là où tu es en palme, où on se fait vraiment une idée de à quelle vitesse tu nages et à quel point c'est vraiment c'est lent et hyper technique, quoi. J'imagine que nager à côté, je serais peut-être pas aussi rapide, mais
en tout cas, c'est fluide. On fait le 50 52, 53 secondes. On est un tout petit peu moins d'un mètre par seconde, enfin, en tout cas, moi.
Ok, d'accord. Ok. Et du coup, donc tu faisais 5 séances d'apnée par semaine. Tu fais 2 à 3 séances de renfo physique par semaine. Ouais. Et boum, les championnats du monde, là, tu te sens comment à ce moment-là?
J'étais vraiment. J'avais pas vraiment d'idée sur ce qui allait se passer. Je partais pas pour avoir un titre de champion du monde. Hein. J'étais déjà au championnat du monde, pour moi c'était énorme. J'étais en équipe de France, enfin voilà, c'était un peu un rêve qui se réalisait. Et j'y allais pas, j'ai été hyper surpris en fait. Hein. Tout le monde a été surpris d'ailleurs, parce que j'étais le dernier en plus à passer sur le dernier jour, sur la dernière épreuve. Donc après moi, la compétition s'arrêtait, elle était terminée. Les championnats du monde se clôturaient. Et bim, record du monde, champion du monde, qui sait, machin. Les coachs en pleurs, tout le monde qui hurle. C'était vraiment. Un grand moment, quoi. Parce que, voilà, ni moi, ni personne ne s'y attendait, en fait. C'était vraiment. C'était assez étrange. Et j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, en fait. Hein. Tout simplement, j'ai nagé le plus loin possible. Je me suis concentré, j'ai fait mon boulot, j'ai fait le job ou quoi. J'ai fait les qualifs, je me souviens, je suis arrivé premier des qualifs déjà la veille ou l'avant-veille, ce qui était déjà assez étonnant. Et je pense que mes adversaires et le public et les gens qui étaient autour devaient se dire que j'avais tout donné sur les qualifs et que j'avais fait mon max et que je ne ferais jamais plus. Puis j'avais nagé, j'ai peut-être nagé 170 mètres ou un truc comme ça.
Okay.
J'étais premier des qualifs, c'est cool. J'avais fait la plus longue distance déjà, donc c'est quand même ce qui me permettait de passer dernier sur la finale et de savoir ce qu'ont fait les autres avant.
Ouais.
Tu vois, pour savoir ce que je devais faire
pour
avoir l'or. Et en fait, je devais faire, je crois, 192 ou 193 mètres pour avoir l'or. C'est ce qu'a fait le mec qui a eu l'argent. Et donc, j'étais à 200. Ce jour-là, j'étais vachement bien. Record du monde, enfin, c'était très étonnant, mais j'étais le premier surpris en fait de ce qui s'est passé ce jour-là. Ouais.
Ouais. Ok, c'est hyper marrant. En tout cas, il y a très peu de sports où tu peux avoir quelqu'un qui en est à sa première compétition, sa première année de compétition, et, et qui peut performer. Et enfin, ça montre aussi à quel point, je pense, c'est un, comment dire, il y a peut-être des, il y a peu, il y a, comment dire, il y a peut-être des propensions physiques aussi qui sont un peu, qui sont un peu spécifiques,
ouais,
ou un peu génériques. Un petit
peu, mais c'est surtout, ça démontre surtout que c'est un sport qui est très mental avant tout.
Ouais.
Voilà, c'est que c'est un sport, il n'y a pas de nécessité vraiment de commencer très tôt, de s'entraîner pendant 10 ans. Voilà.
Ouais.
C'est avant tout un sport mental. Et si on a les capacités mentales pour se dépasser dans l'envie de respirer, en tout cas, pour ce qui est de l'apnée dynamique en piscine,
ouais,
on peut performer même en s'y mettant tard et très très vite. L'apnée en mer, c'est sensiblement différent. Il y a eu vraiment une adaptation physique et physiologique à la compression qui demande du temps. Mais en piscine, on n'a pas ce problème-là, donc on n'a pas cette contrainte, donc on peut vraiment performer très vite en s'y mettant très tard.
Et comment tu te prépares d'ailleurs mentalement ? Parce que j'ai cru comprendre que deux heures avant une perf, tu te mets dans ta bulle, tu fais des exercices de respiration. Ça se passe comment, généralement, ces deux heures-là ?
C'est très personnel, donc on n'a pas tous la même technique. Voilà, moi j'ai un truc qui me va bien, effectivement, où je fais pas mal d'étirements, notamment thoraciques. Je marche beaucoup le long du bassin en visualisant ma performance en temps réel. Le départ, machin, les virages.
Donc tu t'imagines en train de faire ton...
L'envie de respirer qui arrive, les barrières mentales, les différentes barrières mentales, voilà, la sortie, le protocole. Voilà, je m'imagine tout, je me fais ça au moins 2 ou 3 fois. Et après, je fais quelques exercices de ventilation et je fais aussi des exercices de rétention, donc d'apnée à sec, de préparation, allongé sur le bord du bassin près de la zone de départ. Où là, je vais faire des exercices d'apnée pour échauffer l'apnée et surtout pour améliorer ma tolérance à l'excès de CO2.
Ouais.
Donc, c'est le CO2 qui donne envie de respirer quand on est en apnée. C'est l'augmentation du CO2. Donc voilà, j'accoutume mon corps à des taux de CO2 élevés, ce qui permet de repousser un tout petit peu l'envie de respirer ensuite quand on est sur la performance. Donc voilà, je fais tout un tas d'exercices comme ça. Et c'est vrai qu'au bout de 2 heures, si tu veux, avant de partir, quand j'ai fait 2 heures comme ça d'exercice, je vois plus rien autour, quoi. C'est vraiment, je suis dans un état quasi hypnotique, quoi. Donc il y a plus de,
ouais, mais ça se voit.
Le décompte, tu vois, je suis fixé sur mon objectif, il y a plus rien qui m'atteint, en fait, quoi. Et voilà, c'est comme ça que c'est le seul moyen de toute façon d'arriver à faire des performances comme ça en apnée. Hein.
Ouais. Et t'as combien de temps d'exercice de respiration? Parce qu'il me semble t'avoir vu en vidéo où tu fais un peu la carpe. Enfin, ça dure combien de temps cette phase-là à peu près?
Juste pour carper avant de partir, tu veux dire?
Ouais, ou même ou
la
tout.
La dernière inspi.
Ouais, les dernières inspi, ouais.
Bah, une inspi, ça peut la dernière inspi avant de partir, elle peut durer jusqu'à 30 secondes, quoi.
Ouais.
Le temps de gonfler complètement et effectivement de mettre ses poumons en surpression derrière.
Ouais. Okay.
Là, pour réussir à emmagasiner un maximum d'air, la fameuse carpe dont tu parlais.
Ouais, pour ceux qui ne voient pas, en fait, tu t'aspires de l'air avec la bouche comme ça, petit à petit, tout doucement, et tu le fais ça, ouais, une vingtaine, trentaine de fois, et justement, ça permet d'étirer les poumons un petit peu plus, de l'air dans
les poumons. En fait, une fois qu'on est plein, on se sert de la bouche comme d'une pompe à vélo, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que la bouche va faire piston pour envoyer de l'air sous pression, en fait, dans les poumons. Et l'air va se comprimer dans les poumons. Les poumons vont s'étendre un petit peu aussi, ils vont se gonfler un petit peu plus.
Ok.
Pardon. Et ça va nous permettre d'emmagasiner jusqu'à 2-3 litres de plus. Alors, c'est une technique qui est vraiment à proscrire pour le débutant, évidemment. Hein, ça ne sert strictement à rien.
Ok.
Et, qui est uniquement. Qui n'est absolument pas nécessaire en dessous de 200 mètres en apnée dynamique, quoi, par exemple. Donc, il n'y a pas besoin de 6 mètres avant.
Hein. D'accord, ok, c'est marrant. Et du coup, puisque tu parles des débutants rapidement, là, si demain j'ai envie de m'y mettre et j'ai envie de me faire un petit exercice, tu pourrais nous décrire, ce serait quoi l'exercice de base un petit peu à tenter pour travailler, je sais pas.
Déjà jamais d'apnée seul pour ouais. commencer.
Ok.
Sauf si on est assis sur son canapé ou allongé dans son lit et qu'on peut pas tomber.
Ok.
Parce que jamais on perd connaissance pour pas se péter le nez, les dents ou plus grave. Commotion cérébrale ou je sais pas quoi.
Ça a donc, dû arriver ça.
Oui, c'est déjà arrivé à plein d'athlètes. Donc déjà jamais seul, surtout pas seul en piscine évidemment, au grand jamais. Là, les seuls endroits où on peut pratiquer seul, c'est dans son lit ou son canapé, hein. Même pas dans sa baignoire. Hein.
Ouais.
À partir du moment où il y a de l'eau, il faut pas être seul. Hein.
Ouais.
Et seul, ça veut pas dire, ça veut dire vous faites pas surveiller par votre grand-mère, hein, comme je dis d'habitude. C'est faites-vous surveiller par quelqu'un qui est formé pour reconnaître les accidents en apnée et qui est formé pour vous secourir s'il y a le moindre pépin. Après, au-delà de ça, si vous êtes dans votre lit ou votre canapé, n'est-ce pas ? Oui, là, il y a des petits exercices qui sont possibles. Déjà, retenir votre respiration, tout simplement, pour voir jusqu'où vous allez. Donc, en se calmant avant, en ventilant tranquillement, amplement, pendant quelques minutes, et puis voilà, de partir.
Ventiler, c'est le fait de respirer, d'inspirer, d'expirer très profondément.
Ventiler, c'est ventiler, on ventile tout le temps. Hein.
Ouais, j'imagine.
C'est ventiler, non pas respirer, au contraire. Hein,
parce okay.
Enfin, pas au contraire, mais c'est sensiblement différent. La respiration, c'est la peau respire, par exemple, la plante respire. Voilà, donc en fait, la respiration, c'est l'échange gazeux.
Okay.
Mais en fait, on se ventile, surtout. Voilà. Donc,
ouais.
Ventilez-vous calmement, amplement, donc des belles inspis, des belles expis. Et partez en apnée, voilà, sur une première apnée pour voir ce que ça donne. Et puis vous pouvez récupérer 1 minute 30, 2 minutes, et partir sur une deuxième apnée pour voir si ça évolue. Et en général, les apnées successives, comme ça, permettent d'augmenter les temps avec
D'accord.
assez de récup entre ouais. les deux. Et ça permet déjà de s'amuser à voir jusqu'où on va en apnée statique, comme ça, dans son lit. C'est déjà une bonne méthode pour s'amuser,
pour
voir ce dont on est à peu près capable. Après, le mieux, évidemment, étant de pratiquer de manière encadrée dans un club, où là, on va pouvoir faire de la vraie apnée statique dans une piscine, ce qui change tout, même au niveau des temps d'apnée, évidemment. Le contact avec l'eau change tout. On va pouvoir faire de l'apnée dynamique, on peut aussi faire de l'apnée en profondeur, ici en fosse à Paris. Si on habite près de la côte, il y a plein de clubs de Nice à Marseille qui proposent des sorties en mer, où on peut s'initier à l'apnée directement en profondeur. Enfin, voilà, plein de manières de s'initier à l'apnée de manière encadrée, voilà, qui sont selon moi les meilleures manières.
Ouais. Ok, bon, bah super cool. J'ai hâte d'essayer. Et si je reprends un petit peu l'ordre chronologique des choses, tu as eu du coup ces premiers championnats du monde. L'année d'après, il me semble que tu passes un petit peu à côté.
Tout à fait.
Et derrière, tu refais 2 années où tu es champion du monde. Là, du coup, tu passes sur d'autres disciplines, le monopalme, ce qui est ouf. Et là, moi, c'est un petit peu...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
L'effort aussi, enfin... Le moment un peu marquant qui m'a vraiment marqué, c'est que tu bats un record du monde du coup. Sur le monopalme, c'est sûr, en Italie.
Mmh.
Et on te voit du coup dans une piscine avec, je crois, il y a 15 personnes qui te suivent et qui marchent à côté de toi. Ils servent à quoi ces gens qui.
Bah, y a toujours beaucoup de monde. Y a les juges déjà, y a le délégué technique. Il y a le staff médical, il y a le juge principal de la compétition, il y a le caméraman, il y a les apnéistes de sécurité qui sont dans l'eau, il y a quelques membres de l'équipe de France qui sont là aussi, qui marchent à côté, les coachs.
Okay, ouais.
Voilà, bah, il y a toujours un peu de monde à côté, même si le gros du public est dans les gradins.
Toi, ça te gêne pas ça ?
Bon, moi, tu sais, je suis dans l'eau tout seul, et puis au moment du départ, je vois personne. Hein. De toute façon, les gens sont planqués. Ensuite, ils viennent, ils s'agglutinent un peu le long du bassin quand ça commence à dépasser 200 mètres. Mais avant ça, de toute façon, moi, je suis sous l'eau, je vois rien, j'entends rien, donc ça me gêne pas plus.
Ouais,
que
tu
ça.
Le sens pas du tout, quoi.
Disons, je te dis, je suis tellement focus que pourrait y avoir une fanfare à côté, j'entendrai rien, je verrai rien, ce serait pas vraiment grave, quoi.
Bon, faudrait que tu m'apprennes tes méthodes pour te concentrer comme ça, parce ouais. que moi, si j'ai une fanfare à côté de moi, je n'y arrive pas, quoi. Mmh. Et du coup, après, tu t'es lancé un nouveau défi que moi, j'admire vraiment beaucoup, c'est sous de la glace. Du coup, c'est hors compétition, donc c'est toi qui l'organise, c'est toi qui le prévois, tu dois recruter les gens nécessaires pour ça. Et il me semble qu'il t'est arrivé pas mal de pépins pour ça. Donc l'objectif, c'était de battre un record d'apnée sous glace. Donc c'est dans de l'eau à 2 degrés, 1 degré.
Entre 0 et 2, ouais.
Ouais, donc ok.
Plus on est proche de la glace et plus elle est proche de 0.
Voilà, ouais. Qu'est-ce qui te prend de vouloir battre ce record déjà ?
Bah, j'avais en 2016, j'ai fait une très belle saison où j'ai fait deux records du monde coup sur coup en bassin. Le 300 mètres avec la monopalme, qui était vraiment, voilà, c'était un peu le record que tout le monde attendait. Voilà, qui est toujours invaincu d'ailleurs aujourd'hui, même s'il va peut-être se faire battre là sur les prochains mondiaux. Le record a été égalé depuis, mais pas été battu encore.
D'accord.
Donc voilà, c'était un peu ce que tout le monde attendait depuis des années. Donc voilà, j'ai fait tomber le mur des 300. Et j'ai fait aussi un 221 mètres à la brasse, qui était un record du monde, mais qui n'avait pu être validé malheureusement pour cause de faux départ.
Ok.
C'était un quart de seconde trop tard, selon les juges. Hein. Pas selon moi, évidemment. Mais peu importe, pour moi, la perf était faite. J'étais très content d'avoir fait ce record du monde qui n'était pas homologué, du coup. Et si tu veux, voilà, j'avais atteint une espèce de paroxysme un peu dans ma carrière avec ce 300, là, et ça m'a... Il a fallu que je trouve quelque chose pour me renouveler, quoi, parce que j'avais... Tu sais, quand t'as fait un truc comme ça, à quoi bon continuer et faire 305 mètres, quoi, tu vois. Faut trouver la motivation pour faire quelque chose de nouveau, tu vois. Ouais.
Et Roger Federer, par exemple, il se dit, bon, bah, j'ai gagné 16-17 types du Grand Chelem, il se dit, je vais aller en chercher un 18e, tu vois. Bon.
Ouais, après l'apnée, mentalement,
c'est... Il y a peut-être le côté financier derrière qui joue beaucoup, mais...
Il y a le côté financier, évidemment, qui n'est pas le même dans le tennis et dans l'apnée, mais il y a aussi le côté mental, et c'est vrai que l'apnée, il y a... Tu vois, c'est quand même un effort mental très particulier d'apprendre à dépasser un réflexe de survie primaire,
ouais.
qui est l'envie de respirer. Je crois que...
C'est
on a,
seul,
on a
seul,
beau
seul.
Dire que certains sports sont très difficiles, et il n'y a jamais cette composante. Quoi. Je ne connais pas d'autres sports où
ouais.
tu vois, on apprend comme ça vraiment à dompter un truc, un réflexe de survie très ancré. Tu vois, qui est... Et donc, j'avais besoin de faire une pause déjà en bassin. C'est
ouais.
clair. Et j'avais surtout besoin de me renouveler dans quelque chose d'autre. Quoi. J'en avais marre hein, de faire mes perfs en piscine, toujours pareil. C'est très beau, hein, mais j'avais
marre de compter les carreaux, peut-être.
Et voilà, et comme si tu veux, la profondeur nécessite une acclimatation très longue, surtout moi, parce que j'ai des petits problèmes d'asthme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et du coup, j'ai besoin de plus de temps d'adaptation pour évoluer en profondeur. Et ben, il fallait que je trouve quelque chose à faire assez rapidement, quoi, pour ouais. Battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. Notamment au niveau des sponsors, au niveau des médias, des réseaux sociaux, etc. Et donc, et puis pour moi aussi, parce que j'avais envie de me renouveler dans quelque chose d'autre, tu vois. Donc je me suis dit, tiens, il y a des mecs, il y a un Danois qui a un record du monde de distance sous glace, voilà, est-ce que c'est... Comment ça se passe, machin. Le truc était homologué par Guinness. Guinness qui homologue tous les records un peu farfelus, tu sais.
Ouais, je vois très bien.
Entre le mec ça. Qui avale le plus de cuillères et le gars qui...
Qui,
le qui collectionne le plus de dés à coudre. Et bah, il y a un mec qui fait de la distance sous glace. Et donc là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça. Et j'ai commencé à brancher une équipe qui était avec moi, qui faisait un film sur moi à l'époque, qui était notre premier long métrage, là, qui va sortir d'ailleurs normalement en septembre, à Coerex. Okay. C'est un film qui revient sur mes deux dernières années de prépa pour mes deux derniers records du monde, donc le 300 et le record sous glace.
Ok, donc ça sort cette année là.
Ça sort en fin septembre en théorie.
Ok, super.
On a déjà trouvé un distrib, on est sur la distribution, la vente du film. En tout cas, si tu veux, c'est à cette époque-là, quand j'ai eu cette idée, j'ai lancé un peu les mecs qui me suivaient là-dessus. Ils m'ont dit, mais c'est génial, on va te suivre là-dessus. Et donc, ils m'ont aidé, la production m'a aidé en fait à organiser ce record.
Ok.
On a contacté les bonnes personnes en Finlande, on a trouvé le lac. On a monté une équipe, on a trouvé du budget. Enfin, c'était la Fédération française d'études et de sports sous-marins nous a beaucoup aidé, la Confédération mondiale des activités subaquatiques aussi, qui est la fédération mondiale.
Ouais.
Voilà, tout le monde a mis un peu la main à la pâte, on s'est serré les coudes et on a organisé ce record. Voilà, et donc là, oui, bah, je suis parti en Finlande, au nord d'Helsinki, voilà, battre ce record.
Sachant que t'avais déjà nagé sous glace ou pas ? T'avais déjà appris.
J'avais fait quelques essais à Morzine, okay. Matériel notamment, où il fallait que je teste un peu le matos. Mais j'avais pas vraiment, en arrivant en Finlande, j'avais pas vraiment eu trop l'occasion en fait de faire de longues distances sous la glace. Je savais pas trop à quoi m'attendre en fait.
Ok. Et t'arrives quoi, 15 jours avant, je crois, quelque chose comme ça.
Alors oui, j'arrive. On arrive même 15, une bonne quinzaine avant pour justement
pour tester quoi.
Que je puisse m'acclimater, faire des essais, m'entraîner un peu, être bien quoi. On avait tout prévu. Et sauf que on n'avait pas prévu que la compagnie aérienne allait perdre tout mon matos quoi, quasiment tout mon matos. Donc le sac en fait où il y avait ma monopalme, ma combinaison performance, le masque que je voulais utiliser, enfin voilà la totale, mes gants, mes chaussons, voilà, bon, tout a été perdu. Tout est arrivé en fait le lendemain ou surlendemain du record. Donc
ok. Voilà. Ouais, donc un peu trop tard quoi.
Ouais, carrément trop tard. Donc je me suis en fait, j'ai fait venir une, j'avais une combinaison de secours, heureusement, dans un de mes sacs, et j'ai fait venir une palme de Russie qui m'a été envoyée par Alexei Molchanov, qui fabrique des palmes, qui est un athlète très connu, hein, qui a plein de records, et qui m'a envoyé une de ses palmes, voilà, qui est venue que le juge russe qui devait valider ma performance a apporté de Saint-Pétersbourg en bagnole. Il m'a apporté une palme, j'ai pu faire ma perf comme ça.
Donc tu
en empruntant fait... du matos à des clubs de plongée locaux. tu vois, voilà, c'était assez marrant.
C'est complètement improbable cette histoire.
Ouais. Et puis du coup, surtout, j'ai pas pu essayer en fait. Donc je me suis mis la veille du record quasiment où j'avais un peu le matos qu'il fallait. J'avais réussi à rassembler tout ce qu'il fallait.
T'as même pas essayé de te mettre dans l'eau quand même histoire
si,
de.
Si, j'ai essayé, bon... mais j'avais pas de palme donc je.
Ouais, t'avais pas la même sensation.
J'avais pas encore la palme donc je me suis mis sous l'eau. Je me suis un peu déhalé le long du câble entre deux trous, mais il y avait quoi. Il y avait 20 mètres, donc tu vois, c'était relativement aisé. Et puis, quand finalement la palme est arrivée de Russie la veille du record ou l'avant-veille, je sais plus, là je me suis dit, tiens, bah, je vais tout de suite aller essayer ce que ça donne. Hein.
Ouais.
Et là, je me suis rendu compte que c'était très très difficile. Voilà, que ça allait pas être une partie de plaisir, quoi. Moi, j'avais annoncé 175 mètres en me disant, bon, j'arrive à faire 300 en bassin. Ça va être les doigts dans le nez. Le précédent record était à 152 mètres ou un truc comme ça.
D'accord.
Je me suis dit, tiens, je vais lui mettre 25 mètres. Je vais mettre le record à 175, ça va le faire. Et en fait, c'était. Voilà, j'ai tenté un petit 50 mètres la veille. Il est passé super dur. Et je me suis dit, ok, bon, ça va être vraiment une grosse performance. Et là, il a fallu vraiment que je me mobilise après pour.
Ouais. Parce que, bon, après, on se rend pas compte, mais moi j'aime beaucoup le froid là en ce moment, mais ça te coupe la respiration. Enfin, ou en tout cas, ça te.
Tant mieux.
Ça te... ouais, bien sûr, mais en tout cas, ça te crispe. Ça te fait le froid, je trouve, ça te fait un sentiment, un ressenti sur le corps qui te bloque, quoi. Tu as tous les muscles qui commencent à se durcir, quoi, en fait, ouais. Tout simplement, à te comprimer la cage thoracique. C'est un peu ce qui t'est arrivé, toi, du coup, la veille.
Oui, alors le froid, la combinaison me protégeait un petit peu quand même. J'avais une 5, alors je sentais beaucoup le froid sur le visage, les mains et les pieds quand même.
Ouais, parce que ça dépasse.
Il y avait quand même une sensation de froid, même au niveau du corps. Hein. Mais il y avait, si tu veux, j'avais pas cette sensation de trop de suffocation.
Ouais.
Que voilà. Parce que c'est quelque chose qui se maîtrise aussi déjà en se ventilant un peu, en se concentrant quoi. Mais la combinaison m'aidait un petit peu aussi. Hein, j'avais pas.
Ouais.
Alors après, ce qui était par contre plus difficile à gérer, c'était pour le coup la dimension prise de risque aussi là, qu'on n'a pas d'habitude en bassin. Encore une fois, hein,
ouais.
qu'on a beaucoup en mer, en profondeur, mais
parce que là, t'as un trou dans la glace tous les 25 mètres, c'est ça ?
C'est ça. J'avais donc, un trou de départ à zéro, donc un trou de départ à 100, un trou d'arrivée à 175 et on avait fait des petites issues de secours, tu sais, tous les 25 mètres,
ouais.
en cas de pépin, tu vois. Et 25 mètres, mine de rien, quand on est déjà à 75-100 mètres et qu'il faut continuer, ça fait un gros gap à
franchir
clair. Avant le trou d'après, quoi, tu vois. Ouais. Donc il y a quand même... Et puis, peu importe, on est quand même dans une eau à 0 degré sous 80 cm de glace, que ce soit au début ou à la fin, il y a quand même un engagement, tu vois,
ouais.
une prise de risque. c'était plus ça qui était difficile à gérer mentalement, plus que le froid. Après, ce qui me faisait un petit peu peur aussi, c'était les effets du froid sur le corps, notamment en apnée, au niveau du système cardiovasculaire.
Ça endort un peu, non ?
Non, au niveau du système cardiovasculaire, surtout, il peut y avoir des arythmies qui sont D'accord. assez marquées. Donc, ça peut. Il y a une vasoconstriction qui est très profonde avec le froid.
Ouais.
Y a des, y a une bradycardie très profonde aussi. Donc, il peut y avoir des arythmies. Voilà, qui peuvent être. Qu'il faut surveiller, quoi. Et donc, ça, peut, ça c'était quelque chose qui me. Qui me. Qui me. Comment dirais-je ? Qui me. Qui me tracassait un peu, quoi.
Ouais, vois, j'imagine.
C'est, voilà. Bon, après, j'avais confiance, hein, mais bon, personne n'avait jamais fait ça, quoi. Enfin, tu vois, c'était ouais. une première, donc personne ne l'a jamais fait, tu sais pas trop, quoi.
Ouais.
Il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas de compétition tous les ans avec des centaines d'apnéistes qui vont à plus de 100 mètres, tu vois, sous la glace, quoi. Donc, voilà, on ne savait pas trop, donc je ne savais pas trop, donc j'y suis allé un peu à l'inconnu, et voilà, confiant, pareil, en me concentrant, pareil, avec la même prépa de 2 heures avant, pour essayer d'être le plus serein possible, et d'évacuer tous les doutes, toutes les tensions, toutes les inquiétudes. Mais c'est vrai que la veille, j'étais très inquiet, ouais, ouais. Ça m'inquiétait beaucoup. Et
il n'y avait pas dans les conditions optimales, quoi. Entre le matériel,
ouais, puis, entre le manque d'entraînement, la perte du matos, les circonstances du record qui sont nouvelles pour moi, le froid, la glace. Et puis j'avais pas trop le droit à l'erreur. J'étais très suivi sur les réseaux sociaux pour ce record. Il y avait, ouais. il y avait eu de l'engagement de la part de sponsors. On avait des médias français aussi qui voulaient relayer l'info. Enfin, il y avait le film aussi qui se tournait en partie donc, sur ce record. Donc,
toutes les caméras étaient sur toi.
Voilà, tu vois, il y avait un écosystème autour de ce record qui faisait que j'avais quand même pas mal de pression. Et tout ça, en fait, m'inquiétait beaucoup, quoi. Et en fait, pareil, je me suis préparé pendant 2 heures à grands coups d'exercices de ventilation, de visualisation, d'apnée, etc. Et au bout de 2 heures, en fait, quoi que... Tu peux être dans n'importe quel état de stress. Si tu fais une prépa comme ça, tu finis par être zen au bout d'un moment. Quoi,
ouais, c'est clair.
Et en fait, ce qu'il y a d'étonnant, si tu veux, c'est que, en plus de ça, après cette concentration, après cette préparation de 2 heures, quand tu te mets dans l'eau et qu'il faut y aller, bah, en fait, tu t'oublies un petit peu, quoi. Tu vois, ça ouais. se... Tu te lances un peu dans un... Tu t'engages un peu dans quelque chose qui te dépasse, tu vois, qui te transcende, en fait. Et tu pars à l'inconnu, certes, mais tu es en train d'écrire ton histoire, tu vois. Tu es en train d'accomplir un peu ta destinée, quoi, tu vois.
Ouais, tu me sens bien, quoi.
À mon humble niveau, je veux dire. Hein, ouais. Mais t'es en train, j'étais en train d'accomplir ma destinée. C'était ça, quoi, voilà. Donc, j'y suis allé, tu vois. Je me posais même plus la question de savoir... vraiment quelle était la prise de risque, est-ce que je restais d'y passer, d'y rester ou pas, ou est-ce que machin. Il y a vraiment, tu vois, quelque chose qui, voilà, ça nous dépasse en fait. C'est quelque chose qui nous transporte, qui nous anime et qui nous transcende. Et c'est un peu comme Baumgartner quand il a sauté de sa plateforme.
Ouais,
je pense qu'il se foutait pas mal de savoir s'il allait crever ou pas, il faisait ça... Tu vois, il s'est jeté dans le vide, je veux dire...
Ouais, personne ne l'avait jamais fait,
Il y a quelque chose qui le dépassait là-dedans, tu vois, complètement. Et, ou moi, j'aime bien prendre l'exemple de Neil Armstrong, tu vois, sur la Lune. Pareil, quand il a posé le LEM sur la Lune, je crois qu'il se posait pas la question de savoir s'il allait réussir à revenir sur Terre, quoi.
Ouais, bien sûr.
Il était en train d'accomplir quelque chose qui était ouf, pour lui en tout cas. Et moi, c'était exactement ça, je faisais quelque chose qui me...
Dans l'inconnu, mais
voilà,
confiant,
mais
quoi.
Que j'étais confiant, confiant en moi-même, pas le droit à l'erreur, déterminé, et puis tellement focus sur mon objectif qu'en fait, voilà, j'étais dans quelque chose, voilà. J'étais dit qui me dépassait un peu, quoi, voilà.
Mais c'est incroyable, parce que du coup, là, j'ai interviewé quand même plusieurs sportifs, et un peu cette soif de l'inconnu et ce côté... J'ai pas peur, j'y vais. C'est quand même un truc que je trouve qui différencie pas mal quand même les athlètes du très haut niveau, avec un petit peu le commun des mortels. Alors après, on le voit, c'est toi, tu fais énormément de visualisation, t'as énormément de préparation mentale où t'imagines ce qui va se passer, tu vois. Et finalement, quand tu le vis, alors c'est jamais exactement tel qu'on l'a imaginé, mais tu simules un peu ces situations-là. Et ça, on le revoit très, très souvent chez les sportifs de haut niveau. Mais je trouve que ça, c'est vraiment un point commun que je trouve assez fascinant. Tu vois, je connais pas, mais j'y vais, et parce que j'écris mon destin. Et...
Oui, mais ça se retrouve aussi dans, pas que dans le sport de haut niveau, aussi dans tout déjà dans tout ce qui sort de l'ordinaire, effectivement. Tout ce que les hommes peuvent accomplir qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais aussi dans des gens qui sortent de leur zone de confort et qui prennent des risques, pas que dans le sport, hein, tu vois. Je pense à peut-être des grands visionnaires, des grands inventeurs, des scientifiques, des pompiers volontaires, des policiers, des gendarmes, un mec comme Gandhi, comme Mandela. Tout ça, c'est des mecs qui sont pas forcément dans le sport, mais qui sont transportés par quelque chose qui les dépasse et qui les transcende complètement. Et ils se foutent un peu de savoir, en fait, quelle image ils dégagent, déjà. Et puis surtout, quelle est la prise de risque derrière. C'est pas quelque chose qui les freine, en tout cas, tu vois.
Ouais. Et du coup, par rapport à toi, là, c'est quoi ton prochain challenge, la prochaine inconnue que tu vas aller défier ? T'as une petite idée ?
Je suis en train de... Là, je suis à Nice pour mon entraînement estival, on va dire. Okay. Comme chaque année, je suis descendu 3-4 mois à Nice pour progresser en profondeur, pour le coup. Et donc là, j'ai les championnats de France d'apnée en profondeur qui ont lieu fin juin, que je vais probablement faire. Et derrière, par chance, je suis sélectionné, il y a le mondial AIDA, qui est d'apnée outdoor, donc en profondeur, qui a lieu en septembre à Nice. Voilà, si par chance, j'arrive à progresser convenablement, je serai peut-être sélectionné en équipe. Et donc, je ferai peut-être ces mondiaux en septembre à Nice. Voilà. Et c'est vrai que la profondeur, moi, c'est un truc que j'adore.
Nouvelle discipline.
C'est vraiment les vacances, hein, moi, par rapport à la piscine. Justement, à cause de cette envie de respirer qui est beaucoup moins forte, où il y a effectivement par contre une dimension prise de risque qui est beaucoup plus difficile à gérer, je trouve. Et c'est vrai que il y a des jours où je me rends compte que ça y a des trucs qui m'inquiètent, des tensions, je suis pas à l'aise, etc. Ces jours-là, je plonge pas en général, j'attends que ça passe. Et tous les apnéistes ont ça, hein, quasiment tous les apnéistes en profondeur ont déjà ressenti ça, je pense. Enfin, beaucoup me l'ont dit. Et c'est-à-dire, je doute, j'ai peur, machin, je suis pas à l'aise, etc. Et en général, quand ça arrive, on plonge pas ce jour-là, on attend que ça passe un peu, on fait le break qu'il faut et on plonge plus tard. Mais là, on parle de gens qui vont très profond. Hein.
Ouais,
l'apnée, encore une fois, même en profondeur, c'est accessible à tous. On peut descendre sur 5-6 mètres.
Quand tu descends à 200 mètres, c'est pas pareil. Quoi.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'au-delà de 40-50 mètres, il y a quand même y a une dimension prise de risque qui, moi, je trouve, est assez délicate à gérer. Certains ont sans doute plus de facilité que d'autres.
Ouais.
En tout cas, au niveau de l'envie de respirer, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment.
C'est pas pareil.
Et puis même ceux qui descendent profond, hein, on descend profond, on s'arrache de la surface. Il faut palmer un peu, ensuite on se laisse couler très vite, donc à 20 mètres la pression est suffisante pour qu'on arrête tout mouvement.
D'accord.
Et on se laisse couler en fait en chute libre, donc là c'est vraiment une phase de statique où on économise énormément d'oxygène. Au fond, la pression en fait de l'eau environnante agit en fait sur la pression partielle des gaz dans le sang aussi, et notamment l'oxygène. Et en fait, il y a vraiment une sensation de bien-être qui prend la place sur l'envie de respirer. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est très cool à ce niveau-là, c'est qu'en fait, on n'a pas envie de respirer, au fond, on est plutôt bien. Il faut fournir un effort pour remonter. Et l'envie de respirer, là, finit par apparaître pendant la remontée.
D'accord,
où effectivement, les pressions se rééquilibrent et l'envie de respirer apparaît. Mais en apnée en piscine, je veux dire, j'ai envie de respirer à 50 mètres et je vais jusqu'à 300. Tu vois, c'est vraiment des proportions totalement différentes. Voilà,
Mais du coup, ouais, moi j'ai deux questions là, parce que en profondeur, il y a une notion de calcul qui doit être hyper, hyper importante. Parce que si tu te dis que tu te sens bien à 200 mètres, pourquoi pas en faire 5 ou 6 de plus pour grossir un peu la distance? Tu dois calculer quand même pour te dire, ok, bah, quelle quantité d'énergie il me faut encore pour pouvoir remonter. Donc,
oui, ouais. Alors après,
c'est l'expérience ça qui le fait.
Oui, c'est l'entraînement, parce qu'en fait, on ne va jamais à l'inconnu, tu sais, en profondeur. Ouais. On annonce toujours ce qu'on va faire avant.
Parce que vous l'avez, tu as déjà fait le record avant.
On s'entraîne à l'année. Enfin, ceux qui font des records en profondeur s'entraînent toute l'année. Et ils savent ce qu'ils sont capables de faire.
Donc, d'accord.
Ils annoncent en général quelque chose qu'ils sont capables de faire. S'ils font ça de manière prudente et raisonnée. Il y a des fous comme partout, mais la plupart des apnéistes sont des gens assez raisonnés en fin de compte, et en fait on annonce en général quelque chose qu'on a déjà fait à l'entraînement, qu'on se sait capable de faire.
D'accord.
Et en fait on peut pas aller plus profond, c'est à dire que j'annonce 75 mètres demain, l'organisation de la compétition va mettre le plomb en bas à 75 mètres et je peux pas aller plus bas.
D'accord. Okay.
On est longé au câble avec une longe qu'on a accrochée au poignet ou à la ceinture. Cette longe se bloque sur le plomb en bas qui a été mis à 75 mètres.
Donc on
va aller plus bas. Tu vois.
Pas plus.
Voilà, donc on sait que on va à la profondeur qu'on a annoncée.
Okay.
Donc on sait qu'en théorie, tu vois, c'est pas au jugement, c'est pas à se dire tiens là, je suis à 70, allez, je vais rajouter 20 mètres. Aujourd'hui, je me sens bien. Non, pas du tout.
Okay. Et du coup, ouais, t'as parlé un peu de l'envie de respirer qui peut apparaître au bout de 50 mètres. Comment elle se témoigne chez toi, cette envie de respirer, et qu'est-ce que tu ressens concrètement à ce moment-là, quoi?
Bah, c'est pas compliqué, il faut essayer d'arrêter de respirer, voir ce que ça fait, et les gens auront la réponse. Hein.
Okay.
C'est très difficile à décrire, l'envie de respirer. C'est pas vraiment une douleur, c'est plus une gêne qu'autre chose. C'est vraiment une sensation assez...
C'est très désagréable, moi, je trouve.
Assez désagréable. Après, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer, quand même, ouais. Quand on a l'habitude de s'entraîner. Mais ça, voilà, c'est quelque chose, en tout cas, qui impose un dépassement de soi et une gymnastique mentale très particulière, et qui nécessite d'être pratiqué régulièrement et d'être voilà, et ça nécessite de toute façon une force mentale assez développée. C'est sûr que ouais. Quelqu'un qui aime pas souffrir, qui est pas combatif, tu vois, qui supporte pas tu vois, je sais pas, que la baguette soit trop cuite, quoi, c'est vrai, ouais. Que le mec il acceptera pas de se dépasser dans l'envie de respirer. Ça demande quand même une certaine combativité,
ouais.
Tu vois, et c'est vrai que souvent quand on rencontre des grands champions d'apnée, souvent c'est des mecs un peu des nanas ou des mecs qui ont quand même une certaine force de caractère, qui sont tu vois, qui se sont battus pendant leur vie sur des trucs,
d'accord,
qui ont eu des épreuves, qui sont ou c'est des grands sportifs déjà à la base, qui en ont chié, tu vois. Donc souvent, c'est des gens qui ont un mental quand même,
ouais.
Quelque part, qui s'est forgé, quoi, tu vois.
Ouais, mais j'imagine.
Ou c'est des marginaux, ou c'est, tu vois, des gens qui... Voilà, c'est sûr qu'il y a des prédispositions mentales à avoir pour faire des records d'apnée. Ça, c'est sûr et certain.
Ouais, ok.
Hein, encore une fois, pas pour pratiquer de manière...
Ouais, bien sûr, comme tous les sports.
En loisir, hein, là, c'est vraiment... Il y a un monde entre l'apnée compétition et l'apnée loisir. C'est
ouais.
Vraiment deux choses... très très différente.
Okay.
Hein. Et ce qui fait la différence d'ailleurs, c'est le fait d'aller loin dans l'envie de respirer.
Ouais.
Voilà.
Moi je le sens, parce que là, comme je te disais, ça fait quelques mois que j'en fais. Bon, après j'en fais sur mon canapé, je fais de l'hyper, enfin je me ventile très bien sur 30-40 respirations, et ensuite je tente de tenir. Là j'étais content parce que je commence à vraiment m'approcher très proche des 4 minutes. Donc j'ai l'impression que c'est un palier un petit peu, mais pour moi, et en tout cas, ouais, je sens vraiment les bienfaits que ça a sur moi, à la fois sur quand je m'entraîne et que je fais de la course à pied, mmh. Mais aussi sur mon mental, de me dire, ok, mais en fait, j'ai pas l'impression de dépasser mes limites, mais de les repousser, tu vois.
Mmh.
À chaque fois, en fait, je déplace, et en fait, l'envie de respirer... en fait, elle arrive toujours à peu près au même moment.
Mmh.
Et c'est juste, je me dis, ah, au fait, je vais essayer de l'oublier. pendant 10 secondes, 20 secondes. Mmh. Puis après, ça revient très, très fort. Mais, mais du coup, je le sens vraiment que c'est un super entraînement mental, quoi. C'est quelque chose de super, super efficace.
Ouais, bien sûr. C'est la gymnastique mentale, en fait, qu'impose le dépassement de l'envie de respirer. Si elle est pratiquée régulièrement, elle permet vraiment d'avoir une meilleure conscience de soi,
ouais,
de ses limites. Elle permet aussi vraiment une prise de confiance aussi. Hein,
clairement. Ouais.
Et du coup, ce qui en découle, c'est vraiment tout un tas de conséquences, tu vois, au quotidien, sur la gestion du stress, la gestion de l'adversité, des défis, des challenges, la prise de risque, l'échec aussi. Ouais. Tu vois, il y a quand tu pratiques régulièrement cette gymnastique, en fait, ça te permet d'avoir un recul différent, en fait, sur plein de choses dans la vie au quotidien. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce sport. Ouais. Bien sûr.
Tu vois beaucoup de sportifs d'autres sports qui viennent pratiquer l'apnée pour justement renforcer un petit peu ce que tu viens d'énumérer.
Ça commence. Il y a quelques athlètes qui s'y intéressent de plus en plus. Moi, je sais que j'en ai parlé à des footballeurs déjà. J'entraîne assez régulièrement des surfeurs, évidemment. On a un skieur qui vient, un champion de ski français qui vient sur les championnats de France d'apnée récemment faire ses perfs. Donc il y a des oui ça intéresse du monde, et en général quand j'en parle aux athlètes ou même aux coachs et que je leur explique les bénéfices qu'il peut y avoir en fait à s'entraîner en apnée pour les autres sports, en général ils sont hyper intéressés et j'arrive à, voilà, en général il y a des fuites à ces discussions, mais c'est vrai que les gens le savent pas forcément de prime abord, hein, mais c'est vrai que ça peut avoir des conséquences hyper positives sur déjà le mental de l'athlète, hein, effectivement, la capacité à se calmer aussi avant des compétitions, et évidemment la capacité à se ventiler, à bien se servir de sa sphère thoracique, de son volume pulmonaire, de son diaphragme. Il y a aussi énormément d'impact sur le transport de l'oxygène. Hein.
Ouais, moi j'ai l'impression que ça a joué sur ma VO2 max.
Bien sûr, parce qu'on on apprend à tolérer des taux de CO2 bien plus élevés.
Ouais.
On apprend aussi, on entraîne ses muscles à travailler avec moins d'oxygène.
Ouais.
Donc tout ça est très intéressant pour plein de sports en fait. Et quand j'ai ce discours-là, en général, avec des sportifs, ils sont hyper intéressés, tu vois.
Ouais, mais au moins
tout ça, quoi. Parce qu'il y a pas que voilà, il y a l'aspect mental et aussi l'aspect physiologique. Hein, il y a les deux.
Ouais.
Il y a vraiment les deux aspects qui sont intéressants. C'est-à-dire que je pense que ça peut être un complément d'entraînement qui peut vraiment faire la différence, quoi.
Ouais. Ok, trop cool. Je crois que je t'ai déjà retenu beaucoup de ton temps hyper précieux et je pense que ça arrive à la fin. C'est quoi ton actualité là en ce moment et où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre globalement et pour les gens qui s'intéressent à ton travail?
Alors j'essaie de développer beaucoup Instagram.
Ok.
Sur lequel j'essaie.
J'ai vu ton compte d'ailleurs, très sympa.
Ouais, j'essaie de faire un truc assez quali, avec des photos. En général, c'est le public. Le public, en fait, se fout pas mal des compétitions dans l'apnée.
Ok.
Il n'y a pas trop de retransmission. Tu vois, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas de chaîne mainstream, évidemment, qui diffuse nos compétitions. C'est assez peu médiatisé, la compétition. En revanche, tu mets un apnéiste avec une baleine. Et là, ça fait un buzz interplanétaire. Donc, en fait, la seule manière de se professionnaliser dans ce sport.
Ouais.
C'est de broder autour de cette activité parce que la compétition en elle-même ne suffit pas, elle sert à rien, je dirais même elle est contre-productive parce qu'en fait ça nous prend du temps. Et aujourd'hui, un apnéiste qui veut devenir full pro, 100% pro, c'est un apnéiste qui a fait ses preuves en compétition,
okay,
hein, qui a eu ses titres, qui a acquis sa légitimité et qui pérennise sur ses acquis en brodant autour de cette activité et en développant des conférences en entreprise, du coaching, en produisant des belles photos, des belles vidéos, voilà, tu vois, ce genre de choses. Il n'y a que ça qui est, voilà, Évidemment, on prétend son image pour des contrats d'égérie, de sponsoring.
Toi, t'en fais du coup ? Voilà. Enfin, tu te lances un peu dans tout ça ?
Ouais, j'ai arrêté la compétition en bassin, en tout cas, en 2016.
Ouais.
Mes records n'ont pas été battus, en plus, encore. Donc, écoute, j'ai pas vraiment de raison d'y retourner. Mais encore une fois, je te dis, c'est pas bien grave, parce que si je faisais de la compétition, j'aurais pas le temps de développer tout ce que je développe derrière.
Ouais.
Là, je suis en train d'écrire un bouquin. Enfin, on va commencer à écrire l'écriture d'un bouquin avec... avec Alain Robert, là, le Spider-Man français. Là.
Ok.
Et on va au Cherche Midi. J'ai mon film qui sort en septembre. On est à l'écriture sur une série documentaire. Voilà, tu vois, j'essaie de faire des belles photos aussi souvent que possible, des capsules pour mes réseaux sociaux. J'ai des conférences prévues. J'ai déjà fait un TEDx l'année dernière. Il y a du coaching aussi qui se profile. Donc bref, tout ça est en train de se mettre en place. Mais c'est la seule manière en fait, de se professionnaliser dans ce sport. Parce que c'est ça qui intéresse le public et les diffuseurs, les communicants, les médias, etc. Mmh. La compétition en elle-même, c'est très bien pour nous autres athlètes. On adore ça. J'ai beaucoup aimé en faire et j'aime beaucoup en faire encore en profondeur, en mer. Mais c'est pas vraiment ce qui impacte au niveau du public, en tout cas.
Ouais, d'accord.
Même si ça reste très beau et que j'encourage tout le monde, évidemment, à suivre les compétitions, hein, bien sûr. Ouais. Ça reste très impressionnant de voir les apnéistes descendre en mer ou même de voir certains apnéistes dynamiques nager, faire des grosses performances comme ça. C'est hyper impressionnant. Donc j'invite tout le monde
à s'y
intéresser, mais c'est moins médiatisé. Et c'est vrai qu'un apnéiste qui évolue parmi les cachalots, je pense à Guillaume Néry, hein, qui est vraiment... qui fait des vidéos magnifiques avec les mammifères marins, là, qui a sorti un film récemment.
Ouais.
C'est sûr que là, ça parle au public et ça parle aux partenaires, aux sponsors, etc. C'est ça qui fonctionne avec l'apnée.
Bien sûr.
On a cette chance d'avoir un sport qui fascine le public et qui est extrêmement visuel. À partir du moment où on est dans des beaux endroits avec des animaux, etc. Tu vois.
Ouais, ouais.
Et on a cette chance-là, et donc il faut absolument en profiter pour pouvoir se professionnaliser. Ouais.
Bah écoute, je mettrai le lien de tes réseaux sociaux et de ce que tu fais en ce moment, parce que je trouve ça vraiment déjà beau visuellement, donc tu fais bien de le dire, et en plus ça m'intéresse beaucoup. Du coup, j'en viens à ma dernière question que je pose à tout le monde, c'est qui le prochain extraterrien que tu aimerais bien écouter sur le podcast ?
Le prochain quoi, pardon ?
Extraterrien que tu aimerais écouter sur le podcast.
Prochain extraterrien... c'est une bonne question. Il y a des sportifs que j'admire, hein, mais qui sont probablement inaccessibles.
Pourquoi pas, lançons un défi.
Mais c'est vrai que je vois un Phelps ou un pilote de F1, peut-être un Sébastien Loeb, même un pilote de rallye, tu vois.
Okay.
Ou même un Baumgartner, tu vois.
Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée.
Ça me plairait bien d'entendre ce qu'il a à dire. Ouais.
Ok, pourquoi top.
Pas, ouais. Des sports un peu extrêmes comme ça, où la concentration est primordiale. Ouais. Et puis Phelps, lui, Phelps, c'est Phelps, quoi.
C'est plus qu'un extraterrestre, lui.
Non, mais il y en a plein, en plus, dans des sports aussi moins connus qui sont intéressants. Il y a un vélo planchiste français qui a eu je sais pas combien de médailles, qui est une espèce d'extraterrestre aussi. Il est le sportif français le plus titré dans tout sport confondu. Je sais plus comment il s'appelle.
Ah oui, je vois très bien.
Il a 15
ouais.
médailles d'or ou 15 champions du monde, je sais pas quoi. Le mec, je l'avais rencontré une ou deux fois sur des soirées là, au comité olympique et ça m'avait impressionné. Des mecs comme ça, par exemple, tu vois.
Vas-y, ça marche.
Sur des sports comme ça, très méritants, dont on parle pas beaucoup. Tu vois, très dur, il y en a plein. Hein. C'est,
ok. C'est ce que j'aimerais bien.
Profonde inégalité dans le sport, malheureusement. Et ça, je trouve ça scandaleux, on n'en parle pas assez, évidemment. Mais ça devrait être. J'aimerais que ce soit différent, bien sûr, pas que pour moi, pour tout le monde, évidemment.
Ouais. Bon, écoute, sur ce petit mot, je te remercie beaucoup d'être passé ici. Toi. Et puis, j'espère que tu as passé à l'épisode autant que moi, en tout cas.
Ouais, c'était très, très sympa.
Salut.
Merci à toi, salut.
Merci d'avoir écouté jusqu'ici, ça me fait réellement plaisir. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre l'actualité d'Arthur sur Facebook ou Instagram. Aussi, n'hésitez surtout pas à me recommander des invités. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao!
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.